Voix Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 octobre 2015. En direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. Mais tout d'abord, les titres.
Alassane Ouattara est réélu au premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec 83,66% des voix. Notre envoyée spéciale Tatiana Mosso fera le point dans ce journal.
Congo-Brazza, la société civile mécontente des résultats officiels du référendum.
Les résultats sont tronqués, ils ne reflètent pas la réalité. Les Congolais, en grande majorité, ont boudé les urnes. Il y a eu très peu de mobilisation.
Trésor Kende, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
7 morts au Burundi suite à des affrontements.
Et puis les Nations Unies votent la levée de l'embargo américain contre Cuba.
Et également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal. C'est désormais officiel, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre pour un mandat de 5 ans, selon l'annonce ce mercredi matin de la CEI, la Commission électorale indépendante. Tatiana Mosso, vous êtes l'envoyée spéciale de VOA Afrique en Côte d'Ivoire. Que pouvez-vous nous dire ce matin ?
C'est une victoire sans surprise pour le candidat du RHDP Alassane Ouattara. Avec 83,72% des suffrages, le président sortant obtient donc son deuxième mandat, très loin devant ses adversaires. Derrière lui, pas un seul des autres candidats ne dépasse les 10%. Le résultat de ce scrutin semble laisser penser qu'Ado était seul dans la course. Arrivé en deuxième position avec 9,25% des voix, Pascal Affine-Guessant du FPI, le Front populaire de l'ancien président Laurent Gbagbo. En troisième, Kwadjo Konan-Bertin avec un minimum de 3,84%. Souvenez-vous, dès lundi soir, c'est ce dernier qui avait déjà félicité Alassane Ouattara pour sa victoire. Il s'en était suivi deux autres candidats dans la journée de mardi, reconnaissant ainsi leur défaite avant même la proclamation partielle des résultats. Une proclamation qui aura tenu en haleine tout le pays, mais nettement plus rapide que celle d'il y a 5 ans, bien que le contexte ait été totalement différent de celui de 2010. Quant à la polémique sur le taux de participation, la CEI a finalement revu à la baisse les 60% annoncés lundi, soit 54,63% du taux de participation, c'est ce qui était proche du chiffre annoncé par la société civile. Enfin, région par région, candidat après candidat, les résultats partiels du scrutin avaient commencé à être donnés par la commission électorale indépendante dès 20h mardi soir au siège de l'institution. Il aura donc fallu la nuit entière à la commission électorale indépendante pour donner les résultats de ce scrutin 2015. Jusqu'à présent, cette élection s'est déroulée sans incident particulier. Reste à savoir si elle permettra aux Ivoiriens de tourner définitivement la page de la crise de 2010 et d'amorcer une réelle réconciliation nationale. Tatiana Mosso à Abidjan pour VOA Afrique.
La réaction de la France au référendum au Congo-Brazzaville ne s'est pas fait attendre. Un communiqué de l'Élysée dit que les conditions dans lesquelles la consultation a été organisée ne permettent pas d'en apprécier les résultats. Idriss Fall.
Selon le communiqué de l'Élysée, la France prend note des résultats du référendum, mais les conditions dans lesquelles il a été préparé et organisé ne permettent pas d'en apprécier le résultat, notamment en termes de participation. Avant le scrutin, le président François Hollande avait souhaité que les constitutions soient respectées et que les consultations électorales se tiennent dans des conditions de transparence incontestables. Le projet de nouvelle constitution soumis au vote dimanche doit permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Le ministre congolais de l'Intérieur a annoncé hier qu'il a été approuvé par 92,96% des voix avec un taux de participation de 74,44%. Ces résultats ont aussitôt été dénoncés comme une tricherie par l'opposition qui a appelé mardi à la désobéissance civile pour le retrait pur et simple de ce texte.
Au Burundi, des affrontements distincts entre insurgés et forces de l'ordre ont fait au moins 7 morts, dont un policier. Pour la première fois, des combats ont eu lieu dans le centre du pays, fief du pouvoir. Abou Shakour Aboud.
Au moins 3 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées depuis lundi à Bujumbura. Un soldat a été tué dans le quartier contestataire de Cibitoke. Pour la première fois, des insurgés ont lancé une attaque dans le centre du pays, considéré comme un fief du parti au pouvoir. Près de 50 hommes armés ont pris d'assaut la commune de Nyabihanga. 3 assaillants et un policier ont été tués. Puis, ce groupe s'est dirigé vers la province de Giteka, où il s'est heurté à des soldats et policiers. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU s'est alarmé de la dégradation rapide de la situation, signalant qu'au moins 198 personnes ont été tuées depuis fin avril, dont 63 rien que ces 3 dernières semaines. L'Union européenne, premier donateur, a exigé lundi des consultations, une procédure pouvant conduire à la suspension de son aide.
En Libye, au moins 9 personnes ont été tuées hier lorsque l'hélicoptère qui les transportait a été abattu près de Tripoli. Des détails avec Eric Manirakiza.
Selon le colonel Mostafa Al-Sharkassi, l'hélicoptère avec 16 personnes à bord a été la cible de tir et l'appareil s'est écrasé en mer à l'ouest de Tripoli. Il a ajouté que le colonel Hussein Abu Daya, un chef de la coalition de milices Fadj Libya, figure parmi les morts et qu'il n'y a pas eu de survivants parmi les passagers. L'hélicoptère n'était pas armé. Le colonel Sharkassi a accusé les groupes armés liés au gouvernement reconnu par la communauté internationale et établi dans l'Est d'être derrière cette attaque. Il a promis de riposter avec force le moment venu et à l'endroit opportun. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Deux autorités politiques rivales se disputent le pouvoir depuis 2014. L'ONU tente de faire signer un accord sur un gouvernement d'unité qui est toujours en discussion sans jamais voir le jour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, vote quasi unanime mardi de l'Assemblée générale des Nations unies pour lever l'embargo américain contre Cuba. Les précisions de Lionel Gaïma.
À l'exception des États-Unis et Israël, les 191 autres pays membres de l'ONU se sont prononcés en faveur de la résolution non contraignante demandant la fin de l'embargo imposé à Cuba depuis 1962. En 2014, le vote sur cette question était soldé par 2 voix contre, États-Unis et Israël, et 3 abstentions. Le texte de cette année saluait le rétablissement il y a 3 mois de relations diplomatiques entre La Havane et Washington et la volonté exprimée par le président Barack Obama de mettre fin à l'embargo. Cette décision ne peut être prise que par le Congrès, actuellement dominé par les Républicains qui s'opposent au rapprochement avec Cuba. Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez, que cite l'AFP, a dit espérer que le Congrès modifie cette politique inefficace, cruelle et injuste, ancrée dans le passé. Les États-Unis ont voté contre le texte car il ne reflétait pas les étapes significatives qui ont été franchies et l'esprit d'engagement défendu par le président Obama, a expliqué pour sa part le diplomate américain Ron Goddard.
Les États-Unis ont annoncé mardi que Téhéran, allié du régime de Damas, pourrait prendre part au pourparlers sur la crise syrienne, mettant parallèlement en avant leur volonté d'intensifier leurs frappes contre les djihadistes du groupe État islamique.
La justice israélienne a condamné hier à 11 mois de prison ferme le chef d'une organisation islamiste actuellement dans le collimateur du gouvernement pour son rôle moteur dans la mobilisation autour de l'esplanade des mosquées.
L'Église catholique célèbre aujourd'hui, mercredi, avec une audience interreligieuse, les 50 ans de Nostra Aetate. Une déclaration historique qui a jeté les bases, après des siècles d'anti-judaïsme, du dialogue avec les Juifs et toutes les autres religions.
Le 28 octobre 1965, à la fin du Concile Vatican II, plus de 2000 cardinaux, évêques et patriarches du monde entier ont adopté ce document très novateur auquel seule une petite minorité de 88 pères conciliaires se sont opposés. Le passage le plus important concernait les Juifs. Après des siècles d'enseignement du mépris, d'une église qui les accusait d'avoir provoqué la mort de Jésus et dont l'enseignement avait alimenté l'antisémitisme en Europe. Un passage moins connu, mais beaucoup plus bref, exprime l'estime de l'Église pour l'islam, et un autre s'adressait à toutes les autres religions, mentionnant par exemple le bouddhisme et l'hindouisme.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
D'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec John Linden.
La Tunisie a besoin d'emplois pour contrecarrer le terrorisme et surtout relancer son tourisme. C'est du moins ce qu'a déclaré à l'agence AP Habib Bessid, premier ministre de Tunisie. Il y a un problème économique et de manque d'emplois en Tunisie et ceux qui n'ont pas d'autre solution ne peuvent que devenir terroristes, a-t-il souligné. Le taux de chômage en Tunisie est de 15% et ce nombre est beaucoup plus élevé chez les jeunes où il est de 33%. Le premier ministre de Tunisie estime par ailleurs qu'il faudra encore au moins 2 ou 3 ans pour que le tourisme dans son pays retrouve ses beaux jours. Au Sénégal, on parle de divorce à l'amiable entre le gouvernement et Advance, actionnaire majoritaire de Sunior. Cet accord devrait permettre au groupe français de sortir du capital de la principale société du lairie du pays et pilier de la production d'arachide du pays. La sortie du capital de Sunior par Advance a été annoncée lundi à Dakar par le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Ba, et le patron franco-sénégalais d'Advance, Abab Jaber. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama et le Congrès s'accordent sur le budget, le compromis pour financer l'État fédéral et éviter un défaut de paiement jusqu'en 2017 a été trouvé. Cet accord va laisser respirer le président américain qui n'aura donc plus à gérer des crises budgétaires jusqu'à son départ de la Maison-Blanche.
Voilà pour la Minute Éco. Merci John. Et maintenant, notre page sport avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Claire.
Les sportifs centrafricains privés de sortie.
Face à la difficile situation budgétaire à Bangui, les autorités de la transition ont décidé de ne plus financer jusqu'à la fin de l'année les sorties des athlètes centrafricains qui doivent participer à des compétitions en dehors du pays. On écoute à ce sujet sur VOA Afrique le ministre centrafricain Armel Sayo.
Le pays est confronté à des tensions de trésorerie, nous le savons très bien, puisque nous sortons d'une crise et l'enveloppe financière de l'État est aussi resserrée. Mais la vraie raison, c'est simplement sur les désenchantements des résultats obtenus au cours des plus séances sportives que le pays ait connu. C'est ce qui a suivi cette décision. Cela n'exclut pas le fait que le pays doit participer ou doit organiser de la compétition sur l'échelle nationale.
Armel Sayo, joint par Pascaline Mamoko.
Gonzalo Higuain, de retour en sélection argentine.
L'Argentine, privée de ses attaquants Lionel Messi et Sergio Aguero, a rappelé l'avant-centre Gonzalo Higuain pour ses rencontres des qualifications du Mondial 2018. Le sélectionneur argentin Gerardo Martino a aussi convoqué les 3 Parisiens, Di Maria, Pastore et Lavezzi. L'Argentine, je vous le rappelle, recevra le Brésil le 12 novembre à Buenos Aires et se déplacera en Colombie le 17. Les Argentins sont dans une mauvaise passe après une défaite à domicile contre l'Équateur 1-0 et un match nul au Paraguay 0-0. Les Argentins sont 7e au classement sur 10 équipes avec un seul petit point.
Tennis, master féminin de Singapour.
En l'absence de Serena Williams, la Russe Maria Sharapova, 4e joueuse mondiale, s'est rapprochée des demi-finales en battant la Roumaine Simona Halep, le score 6-4-6-4.
Le grand retour de la NBA.
Retour sur les parquets pour les basketteurs nord-américains cette nuit. 4 mois après leur triomphe, les Golden State Warriors ont, semble-t-il, perdu de leur éclat. En juin, après avoir survolé la saison régulière, les Warriors avaient enthousiasmé la NBA en dominant Cleveland en finale, 4-2, et en remportant ainsi le 5e titre NBA de leur histoire, le premier depuis 1975. Pourtant, plus de 53% des managers interrogés voient Cleveland remporter le titre cette saison. Ce serait le premier titre de leur histoire. San Antonio, champion NBA 2014, mais éliminé du premier tour l'année dernière, est donné favori par 25% des dirigeants, tandis que Golden State n'a les faveurs que de près de 18% d'entre eux. À ce sujet, Claire, je vous laisse donner les résultats de la nuit.
Et oui Nicolas, et je commence justement par les Warriors du Golden State qui ont battu 111-95 les Pelicans de New Orleans. Également au menu ce soir, les Chicago Bulls bien sûr qui ont battu les Cavaliers de Cleveland. Et pour finir, les Pistons de Détroit qui ont eu raison des Hawks d'Atlanta. Voilà, c'est tout pour les matchs de la NBA ce soir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Au Congo-Brazzaville, les résultats officiels du référendum de dimanche ont été annoncés hier mardi. D'après le ministère de l'Intérieur, le oui l'a emporté à 92,26% avec un taux de participation de 72,44%. L'Observatoire congolais des droits de l'homme rejette ces affirmations. Idriss Fall, adjoint Trésor Chardon Ndila Kende, directeur de l'Observatoire des Brazzaville.
Ces résultats sont tronqués, ils ne reflètent pas la réalité. Les Congolais, en grande majorité, ont voté les urnes. Il y a eu très peu de mobilisation, que ce soit dans les grandes agglomérations, Brazzaville, le Pointe-Noire, Belize et même à l'intérieur du pays.
Quelles sont les preuves que vous avez? Est-ce que vous aviez des observateurs dans tous les bureaux de vote et dans toutes les villes?
Il n'est pas évident de dire que nous avons des observateurs dans tous les bureaux de vote. C'est exagéré, mais nous avons des informations venues de partout qui nous permettent de dresser une tendance générale sur le déroulement du scrutin.
Maintenant, quelle sera la suite si la nouvelle constitution est adoptée?
Si la nouvelle constitution est adoptée, c'est ce qui est fort regrettable. La constitution va passer, mais ce qui reste à faire, c'est la bataille de la gouvernance électorale. Il faut qu'on ait un fichier électoral fiable, une commission électorale véritablement indépendante pour garantir la sécurité du scrutin de 2016.
Qu'en est-il des militants de l'opposition qui étaient assignés à résidence?
Actuellement, ils sont toujours assignés à résidence. Les droits et libertés politiques sont bafoués. C'est tout à fait inadmissible de voir que les opposants soient assignés à résidence et que le procureur de la République est censé garantir les droits et libertés des citoyens. Et qu'il en suit la liberté.
Trésor Kende, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme à Brazzaville.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Une rétrospective des dernières élections en Afrique et un avant-goût des autres à venir. Dans certains pays, la question du troisième mandat fait toujours débat. Qui sont ces présidents qui s'accrochent au pouvoir? Mettent-ils en péril la paix dans leur pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burkina Faso, les investigations sur le putsch manqué du 16 septembre se poursuivent. Plus d'une vingtaine de personnes ont été arrêtées, des militaires pour la plupart. Bien sûr, le général Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Mais également, le président Kafongo a ainsi dégagé sa directrice de communication et son chef de protocole. Jeudi dernier, le colonel Omer Bationo, directeur de la sécurité intérieure, a était également limogé. Pour en savoir un peu plus, Bagassi Koura, adjoint à Ouagadougou, Bourreima Ouedraogo, directeur du journal Le Reporter.
En gros, ils étaient 22 la semaine dernière, maintenant je crois qu'ils sont passés à 24 ou 25, dont deux civils pour l'instant, tout le reste apparemment ce sont des militaires.
Il y a aussi le directeur de la sécurité intérieure qui a été démis ce jeudi. Hein. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est lié au putsch?
Mais le directeur de la sécurité intérieure, c'est déjà un ancien chef de corps du RSP, sans avoir forcément les motivations exactes effectivement qui ont présidé à son limogeage. Tout porte à croire qu'on lui reproche à défaut d'être impliqué, au moins de n'avoir rien fait pour empêcher le coup. Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, la confiance entre lui et les autorités de la transition ne semble pas au beau fixe.
Et comment est-ce que le public réagit à tout cela, à toutes ces interpellations?
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a comme l'impression à la fois qu'il y a il y a comme une sorte d'indifférence, mais en même temps, il y a un intérêt parce que le public, effectivement, suit attentivement. Mais au fond, on ne sent pas des signes extérieurs, effectivement, d'expression de cette impatience. Mais quand on discute avec les uns et les autres, on se dit que, bon, le plus important, c'est d'aboutir à un véritable procès qui permet de tirer au clair c'est de citer les responsabilités des uns et des autres, y compris les acteurs politiques qui sont suspectés d'être complices ou acteurs du putsch.
Alors, est-ce qu'on sent que les politiques sont en train de reprendre le dessus et qu'on sent un peu la campagne électorale, puisque les élections, c'est pour le 29 novembre?
Pour le moment, on ne sent pas trop la campagne électorale. Je crois aussi que les questions sécuritaires y sont pour quelque chose. Mais on sent qu'il y a un travail souterrain qui est en train de se faire au niveau des différents états-majors.
C'était Bourima Ouédraogo, directeur du journal Le Reporter.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Et au Tchad également, il y a eu du ménage gouvernemental puisque le président Idriss Déby Itno a limogé son frère cadet, Salaï Déby, de la Direction générale des douanes et droits indirects le week-end dernier. Une mesure qui vise à assainir les finances publiques. Quelques citoyens apprécient cet acte et exigent que justice soit rendue au nom du peuple tchadien. De Djamena, la correspondance d'André Kodama Djangar.
Tout est parti de l'application de la feuille de route issue du séminaire gouvernemental tenu du 6 au 7 octobre dernier à N'Djamena sur la stratégie de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses publiques selon les informations proches de l'enquête. Le gouvernement aurait demandé à l'ex-directeur général des douanes Salaï Déby de verser les recettes douanières au trésor public, mais ce dernier a opposé une fin de non-recevoir. Très en colère, le gouvernement, à travers son secrétariat général, a déposé une plainte contre lui au parquet de première instance de N'Djamena le vendredi 23 octobre pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Par un décret présidentiel, signé le même jour, l'ex-tout-puissant directeur général des douanes, frère cadet du président Idriss Déby Itno, est limogé et aussitôt mis aux arrêts par les éléments de la DGCIO, Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, et placé à garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Non seulement le gouvernement lui demande de justifier sa fortune estimée à 15 milliards de francs CFA et les recettes douanières qu'il aurait logées dans ses comptes privés, mais de réparer les préjudice subi par l'État. Réaction de quelques citoyens au sujet de ce limogeage.
Un simple douanier, on l'escorte pour aller au bureau, c'est mon faute de voir. Le ministre des douanes ne va pas escorter pour un douanier. C'est lui qui a ramassé beaucoup d'argent, il faut qu'on le mette en public, tout le monde le voit. Que de le cacher et faire un jugement sous coulisses, nous on ne veut pas.
Même si c'est une récupération politique, mais quand même, nous, surtout les citoyens lambda, on a vraiment apprécié cela. Donc Déby doit faire tout pour laisser la justice librement faire son travail.
Les recettes douanières sont les premières recettes qui contribuent au budget national. Mais depuis que ces régies sont à la main de certaines personnes, le Tchad est asphyxié. Donc son limogeage est un ouf pour le trésor tchadien.
Pour le ministre des Finances et du Budget, Ngarlena Dokdjangar, une page de l'histoire est tournée.
Il faudrait que la douane soit une administration au service de l'État et non une administration au service de quelques agents. Qu'on puisse jeter les nouvelles bases d'une administration douanière qui, compare le passé, est une des premières administrations financières du pays.
Si les faits reprochés à l'ancien directeur général des douanes sont avérés, il encourt un emprisonnement ferme de 1 à 10 ans avec une amende de 100 000 à 10 millions de francs CFA conformément à la loi en vigueur. Pourquoi ce sont les éléments de la DGCE qui l'ont arrêté alors que la plainte déposée contre lui au parquet est orientée à la police judiciaire? Personne ne répond à cette question. André Kodma Djangar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le calme est de retour dans les universités sud-africaines après la promesse faite vendredi par le président Jacob Zuma qu'il n'y aura pas d'augmentation des frais d'études en 2016. De nombreux étudiants se félicitent de cette concession présidentielle, mais les plus radicaux continuent d'exiger la gratuité des études universitaires. L'université du Witwatersrand compte reprendre ses activités aujourd'hui. Timothée Donangmaï y a joint Claire Bénite Gafou, enseignante en architecture.
On n'est pas tout à fait sûr que ça va marcher parce que le corps des étudiants est divisé. Il y a le SRC d'un côté qui souhaite arrêter les manifestations et terminer l'année et passer les examens, quitte à reprendre les manifestations ensuite, et qui dit bon, on a gagné sur nos revendications immédiates, qui n'étaient pas d'augmentation de frais d'inscription et la considération que les travailleurs en sous-traitance soient réintégrés. Et il y a l'aile plus radicale des étudiants qui dit mais on est qu'à la moitié du chemin parce qu'on a fait une victoire à court terme, mais ce qu'on voudrait c'est l'éducation gratuite dans un pays comme l'Afrique du Sud, et ça on n'y est pas du tout encore et c'est le moment de pousser.
Qu'en est-il des autres universités?
Je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié dans les autres universités, UG Pretoria. Il n'y a pas eu de grand mouvement jusqu'ici. Je pense que les étudiants se concertent, sont assez divisés, donc discutent beaucoup. Donc on ne sait pas trop ce qui va sortir de cette période-là, qui est une période plus difficile, parce que là, c'est vraiment la dernière limite pour faire les examens, hein, avec 2 semaines de retard, et l'année va s'achever. Et je pense que c'est un moment de possible division du mouvement.
Donc la promesse du président Zuma qu'il n'y aura pas d'augmentation des frais universitaires en 2016 a des résultats plutôt mitigés.
Non, tout le monde est content et ça on sait qu'il va être forcé de le tenir. Mais les réclamations des étudiants, c'est on aimerait le principe d'une éducation gratuite ou d'une éducation à frais d'inscription symbolique. Il y a une étude qui a été faite par un professeur d'université en disant voilà quel serait le coût de frais d'inscription minime et c'est tout à fait supportable dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Et donc en ce moment, ce rapport ressort, enfin on commence à le faire circuler sous le coude et à dire mais pourquoi on n'en a pas débattu, pourquoi c'est pas quelque chose sur lequel on peut statuer. Et donc le débat se dirige vers ces questions à plus long terme et en fait les étudiants plus radicaux aimeraient que ce débat ait lieu maintenant.
Claire Bénite Bafou, enseignante d'architecture à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Fonds monétaire international a publié mardi à Dakar son rapport régional semestriel sur l'Afrique subsaharienne. Intitulé « Faire face à un environnement qui se dégrade », le document met l'accent sur la prudence monétaire et la réduction des inégalités. John Linden s'est entretenu avec Boileau Loco, représentant résident du FMI au Sénégal.
Les pays d'Afrique subsaharienne ont connu ces dernières années des croissances relativement fortes qui sont dues à 3 raisons principales. La première raison, ce sont les bonnes politiques macroéconomiques qui ont été mises en place. La deuxième raison, c'est l'augmentation des prix des matières premières, notamment du pétrole et des produits miniers pour les pays exportateurs en Afrique. Et la troisième raison, c'est quand même le fait qu'au niveau politique monétaire, il y a actuellement beaucoup de liquidités, beaucoup de financements et à des taux d'intérêt qui sont relativement faibles. Donc cela a permis au pays d'avoir jusque-là des croissances relativement fortes. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé parce que les prix du pétrole sont à la baisse, les prix des produits miniers sont à la baisse et on s'attendait vraiment de la politique monétaire dans le pays développé. Donc à une augmentation des taux d'intérêt et à un problème plus difficile de financement pour le pays en développement. Donc c'est pour ça que nous avons relevé à la baisse légèrement le taux de croissance pour les pays africains en 2015 et en 2016.
Le rapport souligne que l'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde où les inégalités de revenus entre femmes et hommes sont parmi les plus élevées. Que faut-il faire selon vous pour réduire ces inégalités?
Vous savez, ça c'est une problématique qui est très intéressante. Cette fois-ci, nous avons regardé la question dans l'autre sens. Est-ce que même le fait qu'il y ait des inégalités ne constitue pas une contrainte à la croissance? Et dans ce sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que les gouvernements, dans les politiques publiques, que ce soit au niveau de la politique budgétaire, que ce soit au niveau des réformes qu'il y a à faire au niveau de l'environnement des affaires, prennent des mesures pour pouvoir réduire les inégalités. Et nous pensons qu'en réduisant les inégalités, ça va offrir plus d'opportunités et ces opportunités vont permettre de générer et de consolider la croissance. Donc, il est vraiment important de voir que la relation n'est pas seulement croissance, réduction de la pauvreté, réduction des inégalités, mais c'est que dans une société plus ou moins égalitaire, on peut s'attendre à une croissance plus forte.
Boileau Loco, représentant du FMI au Sénégal.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Michel Joseph était à la réalisation. Jimmy Cook était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com et grâce à notre page Facebook, bien sûr. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.